Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Thomas Hugues.
7h44 sur RTL. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc Pierre Person, le député de Paris, le délégué général adjoint de La République En
Bonjour
Marche.
Bonjour Pierre Person.
Bonjour Elisabeth.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Question simple, Pierre Person, y a-t-il une affaire François de Rugy ce matin ?
Écoutez, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous représentez l'institution, vous représentez tous les Français. Et donc c'est normal que les services de l'État mettent à disposition à la fois la culture culinaire française. Après, vous êtes président de l'Assemblée nationale 24 heures sur 24. Et donc, il vous arrive de loger à l'AC et d'avoir des représentations
à l'hôtel
privées.
De l'AC.
Tout à fait, à l'hôtel de l'AC.
Qui est à l'Assemblée nationale, Palais Bourbon.
Tout à fait. Et dans ce cadre, vous avez donc parfois des activités privées. Dans le cadre des activités privées, vous devez avoir des justificatifs et des justifications. Donc moi, j'ai toute confiance en deux choses. Un, que François de Rugy apportera et apporte toutes les justifications et les justificatifs. Et puis aussi dans le travail de la déontologue. Vous savez, en tant que député, nous avons porté la loi de la transparence dans la vie publique. Et cette loi, elle impose que notamment les frais de mandat sont contrôlés à l'euro près. Que nous avons supprimé tous les régimes dérogatoires, tous les privilèges. À la fois, nous n'avons pas de chauffeur, mais nous n'avons pas de régime exorbitant de retraite, de chômage. Il faut le dire à nos concitoyens, parce que derrière tout cela, il pourrait y avoir l'impression que nous avons des privilèges. Non, je le redis à nos auditeurs, quand vous êtes député, vous êtes à la fois responsable et donc vous devez justifier de tous vos frais de représentation dans le cadre de vos mandats.
Alors, on reprend tout ce que vous avez dit, si vous voulez bien, dans le détail, parce que là, on comprend bien que vous aviez bien préparé l'argumentaire. François de Rugy, on le rappelle, est accusé d'utiliser des fonds publics quand il était président de l'Assemblée, selon Mediapart, pour une dizaine de dîners entre octobre 2017 et juin 2018. Dîners dont on ne sait pas exactement la nature, professionnelle, privée, un peu des deux, etc. Ce que je retiens de ce que vous nous dites maintenant, c'est que d'abord, vous souhaitez qu'il publie très précisément la liste des invités à ses agapes.
Mais
par exemple,
il a commencé à le faire et donc je pense qu'il apportera tous les justificatifs et justifications. Voilà, c'est pas à moi d'en juger.
Et compte tenu de ça, hier on a bien entendu Sébeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, nous dire qu'il conserve la confiance du président et du premier ministre. La question, c'est jusqu'à quand ?
Mais bon, il conserve ma confiance aussi. Là n'est pas la question.
Mais jusqu'à quand ? C'est-à-dire pour vous, qui êtes député, vous êtes parlementaire, donc
bien
vous
entendu.
Êtes co-responsable finalement de aussi, d'autant que vous êtes en marche, d'une certaine façon, vous êtes comptable aussi politiquement dans cette affaire. Quelle serait, selon vous, la ligne rouge qui pourrait déstabiliser François de Rugy ?
Mais il faut apporter les justificatifs et bien les justifications de tous ces dîners, c'est tout. Moi je m'arrête là, ce n'est pas à moi à la
fois. Donc s'il ne les apporte pas ?
Et bien après c'est au Premier ministre d'en tirer les conséquences.
Est-ce qu'il doit rembourser, par exemple, les frais de dîner ?
Mais je ne peux pas vous le dire, vu que pour l'instant, nous n'avons pas l'intégralité des explications.
Donc pas de procès d'intention ?
Non, absolument
vous
pas.
Vous attendez calmement les justifications, et sur cette base, il conviendra de dire si François de Rugy doit rembourser, doit éventuellement démissionner, ça n'est pas totalement tabou.
Il faut faire attention. Non, ce n'est pas tabou. Mais la transparence n'est pas tabou. C'est un principe de notre vie publique et nous devons la porter. Et François de Rugy l'a porté. Je vous dis, sous sa présidence...
C'est un peu l'arroseur arrosé.
Non, sous sa présidence, il faut quand même noter que les frais de cabinet, en tout cas les crédits alloués au cabinet, ont réduit de 30%. Que les frais de représentation ont diminué d'une quinzaine de pourcents. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus sur le train de vie de l'État. Pourquoi nous travaillons sur le train de vie de l'État ? Parce que tout simplement, c'est aussi moyen de réduire les impôts des Français.
Mais il s'agit que vous ne soyez pas tous éclaboussés, d'une part, et d'autre part, pas haro sur le bedet. Mais avec l'affaire Benalla, Pierre Person, vous avez payé pour savoir que l'absence de réaction officielle face à l'émotion que peut provoquer une affaire est délétère.
Oui, mais
Est-ce que ça vous inquiète ?
Vous savez, il n'y a pas de procès via des articles. Il faut donc laisser le temps aussi aux gens de se justifier. Vous savez, je connais trop bien la vie politique pour savoir que parfois, vous avez en effet des phénomènes comme celui-ci qui emportent l'adhésion, l'émotion et qui ne sont pas totalement rationnels. Il faut laisser la possibilité à François de Rugy de pouvoir s'exprimer sur le sujet.
Entre le rationnel et l'émotionnel, il faut trouver le bon équilibre. Est-ce que Matignon et l'Élysée suivent ce dossier avec attention ?
Je présume.
Est-ce qu'ils sont prêts à réagir éventuellement ?
C'est à eux de le dire.
Est-ce que ce sont eux qui ont demandé à François de Rugy de limoger, de se séparer de sa directrice de cabinet ? Hier soir, alors qu'il y ait une autre affaire, on apprend aussi par Mediapart qu'elle a conservé son HLM pendant 12 ans à Paris, sans y habiter et sans doute sans y avoir droit.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais en effet, nous devons à la fois être transparents, mais nous devons aussi être irréprochables. Et donc, ça le vaut aussi pour les fonctionnaires ou les membres des cabinets. Et donc, je pense que François de Rugy a pris la bonne décision en la matière.
Au-delà de ça, Pierre Person, ça pose aussi des questions sur le fonctionnement de notre démocratie, qu'on dit parfois monarchique. Est-ce qu'organiser des dîners informels dans un palais de la République pour étendre son influence, pour, comme dit-il, on va dire, vitaliser la société civile, etc., ses relations, est-ce que c'est une bonne pratique, dans le fond ?
Il y a deux choses. Il y a ce qui est de l'ordre du public et de votre fonction, et qui est donc de la représentation, bien entendu. Quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous êtes un personnage de l'État, et donc vous, de fait, jouez aussi votre influence. Vous recevez des gens parce que ça fait partie aussi de cette nécessité que vous avez d'être resté, eh bien, emprunt, connecté à tous ces gens qui...
Oui, mais les trains de vie, quand même, les trains de vie de certains palais de la République, et justement le Sénat et l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ne sont pas anachroniques ? C'est aussi ça la question
peut-être,
qui est posée.
Mais c'est pour ça
peut-être.
Peut-être. Il faut réfléchir à cela. Je pense, mais il ne faut pas à la fois que nous tirions sur nos institutions, parce que c'est aussi la grandeur de la France, mais qu'il faut que dans la transparence, nous puissions eh bien, simplifier, nous puissions toujours travailler sur
une
réduction du train de vie. Nous avons travaillé sur la réduction du train de vie.
De qui dépendent ces règles de fonctionnement ? Du gouvernement ou du
non,
Parlement
de
lui-même ? Donc de vous, les parlementaires.
Bien entendu, et bon, nous travaillons êtes... déjà là-dessus. Je vous disais, nous avons réduit les frais de fonctionnement et nous continuerons à réduire les frais de fonctionnement, parce que réduire les frais de fonctionnement, c'est permettre aussi de baisser les impôts pour les Français.
Pierre Person, Paris, Benjamin Griveaux. Est-ce que vous avez des nouvelles de Cédric Villani ce matin ?
Non, pas ce matin.
Parce qu'il a disparu depuis, enfin c'est pas drôle, mais il se trouve qu'il a pris acte de sa défaite avant même l'annonce officielle, sa défaite face à Benjamin Griveaux à Paris, qui est désormais votre candidat En Marche. Cette façon de prendre acte par un communiqué teinté d'amertume, avec des menaces un peu subliminales, il est mauvais joueur, Villani ?
Non, je pense pas qu'il soit mauvais joueur. Vous savez, on a eu une belle campagne. On a dit pendant des semaines qu'il n'y avait pas de débat. Et puis là, ces derniers jours, il y avait un débat
autour,
les commentateurs, les politiques, disant que ce sera Benjamin Griveaux. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat à la fois au sein de la commission, puis il y a eu un débat aussi à l'extérieur. Vous avez vu toute cette campagne, il y a eu une vraie dynamique. Bon, aujourd'hui, il y a un choix. Et donc, il faut se ranger derrière ce choix. Et moi, je salue le fait qu'aujourd'hui, Benjamin Griveaux soit notre candidat. Mais en tant que responsable de parti, avec Stanislas Guérini, nous devons travailler au rassemblement. Benjamin Griveaux le doit aussi. Et nous allons travailler au rassemblement interne, bien sûr.
Parce que Cédric Villani, il laisse entendre que, ben, il va jouer sa partie, peut-être.
Je ne le pense pas.
Vous ne croyez pas cette hypothèse où qu'il se présente face à Griveaux ?
Je connais bien Cédric Villani. C'est quelqu'un de responsable. C'est quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, qui représente purement l'ADN d'En Marche, qui est finalement... Et j'apprécie ce qu'il représente. Moi, je suis fier d'être dans une majorité avec Cédric Villani. Parce que c'est la médaille fils.
Vous lui dites quoi ce matin, alors, en tant que numéro 2 du parti ?
Et ben, je lui dis que nous allons travailler à ce que tout le monde ait sa place dans la campagne.
Vous lui dites, reviens, comme Jean-Louis Missica, le proche d'Hidalgo, qu'il a écrit sur un tweet, reviens à nous, Cédric, parce que c'est Villani. Avait effectivement soutenu Anne Hidalgo en 2015. Bon, vous lui dites quoi alors, vous, Villani ? Vous pouvez aussi lui lancer un message.
Mais je n'ai pas de message à lui lancer. Moi, je l'appellerai et bien entendu, nous communiquerons. Nous avons toujours été en contact et nous travaillerons avec Stanislas Guérini à ce que, à la fois, nous soyons dans une campagne apaisée, mais aussi rassemblée, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à porter un projet pour tous les Parisiens.
Ça va laisser des traces quand même.
Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, il faut y remédier si c'est le cas.
Benjamin Griveaux, candidat, qu'est-ce qui a fait la différence avec ses rivaux ?
Écoutez, moi je ne fais pas partie de la commission nationale d'investiture et je ne suis pas jugé parti. Bien entendu, avec Stanislas, nous avons imaginé tout le
Guérini,
processus.
Le président
Stanislas
du parti.
Guérini, tout à fait. Nous avons imaginé tout le processus qui nous permet de sélectionner les candidats pour les municipales. Et nous n'avons pas un processus dérogatoire pour Paris. Et la commission nationale a auditionné finalement tous les trois candidats. À la fois Benjamin Griveaux, notre ami
Cédric Villani
et Granson, tout à fait. Et dans le cadre de cette audition, il est ressorti eh bien, que le meilleur dossier, le meilleur projet était celui de Benjamin Griveaux. Donc nous avons suivi finalement les recommandations
de la commission. Il n'était pas le favori du château, comme on l'a dit ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, il
Comment
a
Comment ça,
été...
je ne sais pas ?
Mais je ne sais pas, et moi je ne suis pas là
la
pour...
La rumeur était fausse ?
Mais je ne suis pas là pour commenter les rumeurs. De mon point de vue, la Commission nationale a fait son travail, elle a choisi le meilleur des projets.
Pierre Person, encore un mot. Ça rouspète, comme disait ma grand-mère, ça rouspète, pardon, sur un sujet sérieux, qui est la taxe avion, décrétée par le gouvernement au sortir d'un conseil de défense écologique mardi. D'abord, vous, député de la Commission des finances ?
Plus maintenant, je suis commission des lois.
Voilà, la commission des lois, pardon. Est-ce que vous étiez au courant que ça allait sortir ?
Bah, je suis commission des lois, donc il faudrait demander au commissaire des finances. Pour le
est-ce
coup,
que vous l'avez découvert comme nous ?
je l'ai découvert, mais après, peut-être que je n'étais pas suffisamment informé sur le moment. Après, il y aura bien entendu des discussions. Mais revenons peut-être à l'essentiel sur cette taxe.
Ouais.
L'objectif de cette taxe, c'est finalement bien de financer aussi nos infrastructures, de financer la transition énergétique. On nous a fait le reproche souvent d'avoir
donc
des taxes...
Donc on taxe l'avion pour faire rouler les trains et les voitures, en somme.
Pour investir massivement dans nos investissements, notamment de transport, qui sont plus écologiques. Voilà.
Ouais,
et donc, ça pèsera sur les billets d'avion.
Il fallait donc...
De l'ordre de 2 euros pour des vols intérieurs à l'Union européenne, en classe économique. Et donc, ça nous permettra finalement de financer les infrastructures françaises.
Donc, c'est très clair, c'est une taxe pour... récupérer de l'argent et pas une taxe écologique pour peser sur les comportements. Cette taxe ne peut pas peser sur les comportements.
Ça pèse sur les comportements, mais de manière beaucoup moins indolore.
Donc, pour vous, c'est une bonne taxe ou pas ? Elle n'est pas un peu précipitée ? Elle sort comme ça d'un conseil de défense, sans sommation, sans concertation, et avec un effet sur les comportements de ceux qui prennent l'avion assez limité.
Au Parlement, mais je tenais à vous dire que la politique que nous menons là-dessus, elle est ambitieuse dans la mesure où elle permettra de financer sur le temps long des infrastructures, des investissements qui profitent à la transition énergétique. Et on ne peut pas dire en fait que ce soit une taxe paramétrique qui ne finance que finalement le budget de l'État. Non, elle sera directement fléchée vers nos infrastructures.
Vous vérifierez ça en tant que parlementaire au moment du débat. Merci à vous d'avoir été ce matin l'invité d'RTL. Bonne journée.
Merci
à tous les deux à propos de l'affaire de Rugy. Près de procès d'intention, François de Rugy doit apporter les justificatifs de ses dîners. S'il ne les apporte pas, ce sera au Premier ministre d'en tirer les conséquences. À suivre sur RTL, les inattendus de Cyprien Signy. Et puis...